Si tout le monde ment quand il veut, il n'y a plus de vérité, donc plus de mensonges, répliquait Kant à Benjamin Constant. À la fin, personne ne ment. Les fake news envahissent le monde et deviennent la réalité. Ce soir, nous avons la chance d'être avec Jean-Pierre Dupuis, philosophe, auteur de nombreux textes. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera Henri Salvador. Merci d'être avec nous, Jean-Pierre Dupuis. Vu les titres de vos livres, « Demain l'apocalypse nucléaire »,« Pour un catastrophisme éclairé »,« La jalousie, une géométrie du désir », »,« L'invasion pharmaceutique », ça c'était il y a longtemps, c'est comme ça que vous avez démarré votre itinéraire de philosophe. Ma première question est très simple, êtes-vous d'un tempérament pessimiste ?
Non, je suis d'un tempérament optimiste. Je suis gascon. J'ai de grandes colères parfois, mais je suis fondamentalement doux, je crois, et optimiste. Mais dans les circonstances, non seulement actuelles, mais enfin des 70 dernières années, parce que pour moi, tout commence avec la 1945, la bombe atomique. Je crois que pour se permettre d'être optimiste, il faut regarder les menaces en face, dans les yeux. Voilà, c'est tout. Beaucoup d'optimistes, hélas, sont des optimistes béats, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas de questions, qui règlent le problème des catastrophes potentielles en n'y pensant pas, tout simplement, en détournant le regard. Alors, moi, ma méthode, c'est le contraire, méthode personnelle, pas théorique.
Alors, comment vous définiriez une catastrophe ? Vous aviez écrit il y a quelques années ce texte qui avait eu beaucoup d'écho et en même temps qui gênait le monde intellectuel parce que personne n'a envie de connaître ce que signifie une catastrophe, ni l'ampleur d'une catastrophe, et personne n'a envie d'essayer de se mettre dans la tête que la catastrophe appartient au XXe siècle et encore plus au XXIe siècle. Comment vous la définiriez aujourd'hui, la catastrophe ?
Le singulier, n'est-ce pas, est un singulier collectif, comme on dit en grammaire. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des catastrophes dans la mesure où elles font système. Et j'ai étudié toute une série de catastrophes de nature a priori très différente. Les catastrophes naturelles, par exemple les tsunamis, les cyclones, etc., les catastrophes morales, Auschwitz, Hiroshima, le 11 septembre. Bon, je les cite en vrac, hein, ça ne veut pas dire que je leur donne la même valeur. Les catastrophes technologiques, les catastrophes nucléaires en particulier, j'ai beaucoup travaillé sur Tchernobyl, mais aussi sur Fukushima. Les catastrophes technologiques, par exemple la question des nanobiotechnologies, le projet de fabriquer de la vie artificielle, y compris des virus artificiels, etc., etc. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces frontières, au fond, elles s'effritaient, elles disparaissaient. Par exemple, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai intitulé un de mes livres « Petite métaphysique des tsunamis », c'est là que lorsque les catastrophes morales en particulier, dépasse un certain seuil, nous n'avons plus de catégorie morale pour les juger, en quelque sorte. C'est trop fort par rapport à notre éthique de base. Et on est obligé pratiquement de faire des comparaisons avec des catastrophes naturelles. Enfin, comme si le cosmos lui-même était frappé. Alors c'est ce que dit Hannah Arendt dans son Eichmann à Jérusalem, à propos de la Shoah. D'ailleurs, le mot Shoah lui-même, hein, il y a eu cette controverse avec Mechonik, etc., et Lanzmann, bien sûr, signifie, selon Mechonik, et signifie uniquement une catastrophe naturelle, et plus particulièrement, non pas un tsunami, mais enfin, c'est presque un tsunami, c'est une vague, c'est l'attraction de la Lune, là, c'est pas un tremblement de terre. Et pour ce qui est d'Hiroshima, Günther Anders, qui fut le premier mari de Hannah Arendt, revenait de son premier voyage au Japon en 1958, disant « je ne comprends pas, les rescapés n'ont aucun ressentiment par rapport à ceux qui, à des êtres humains, à savoir les Américains qui ont lâché des bombes sur eux quand même. Et c'est comme si c'était une catastrophe naturelle et il la désigne par le mot japonais, bien évidemment, de tsunami. » Voilà. Donc voyez, distinguer entre les catastrophes fait de moins en moins de sens. Donc, le sens que je donnerais, c'est presque le sens mathématique. Une catastrophe au sens mathématique, c'est une discontinuité, une rupture, un point de basculement, comme on dit, tipping point en anglais, qui se produit sur la base d'une dynamique continue. Hein. Les règles, les lois de mouvement restent les mêmes, et puis tout d'un coup, paf! Donc, si nous nous voyions, je vous montrerai mon crayon glissant sur mon bureau, et puis arrivant au bord de mon bureau et tombant. Voilà, ça, c'est ça la catastrophe.
Est-ce à dire, selon vous, Jean-Pierre Dupuis, que c'est l'homme qui a créé la catastrophe, même si les catastrophes naturelles ont toujours existé depuis l'aube de l'humanité, mais depuis Hiroshima, c'est l'homme qui a fait consciemment mal à l'homme et qui a décidé d'endommager l'humanité par une décision.
Oui et non. Et ça renvoie à la première grande catastrophe philosophique de la philosophie occidentale, qui est le tremblement de terre de Lisbonne, le jour de la Toussaint.
Dont a parlé Voltaire.
Et Rousseau.
Et Rousseau.
Et c'est la réponse de Rousseau qui m'intéresse, à vrai dire, qui est dans la lettre qu'il a écrite à Monsieur de Voltaire, mais qui est encore plus dans l'Émile, qu'il écrit 5 ans plus tard, ou 7 ans plus tard, où il dit « Homme ne cherche plus l'auteur des mots qui t'accablent, cet auteur, c'est toi et personne d'autre. » Ça, c'est le rousseauisme. Hein. C'est pas l'état de nature, l'homme bon, etc. C'est les mots qui accablent l'humanité viennent de l'humanité elle-même. Bon, et il prend l'exemple de Lisbonne, bien sûr, du tremblement de terre, où le tremblement de terre aurait pu être beaucoup plus bénin si les gens n'avaient pas là construit des immeubles de manière compacte. Bon, voilà. Mais ça, c'est très dangereux de dire ça. Si on s'arrête là, c'est très dangereux, parce que ça veut dire, puisque l'homme est responsable de tout, au fond, il n'y a plus, comme vous le disiez très bien, il n'y a plus de catastrophes naturelles. L'homme est responsable de tout, mais si l'homme est responsable de tout, la tâche qui pèse sur ses épaules devient impossible à supporter. Enfin, bon, Certains disent aujourd'hui, on va sauver la planète. Bon, non, non, non. C'est une tâche trop au-dessus des capacités de l'homme. Donc, il faut bien faire une place, vous disiez consciemment. Hein, l'homme fait consciemment du mal à l'homme. Ben non, la plupart du temps, c'est non consciemment. C'est malgré lui. Vous vous souvenez peut-être, ou peu importe, que j'ai eu comme maître, premier grand maître intellectuel, Ivan Illich, ce grand critique de la société industrielle, dont on reparle de plus en plus, en particulier c'est moi qui ai adapté pour un public français, c'est plus qu'une traduction, son livre qui est plus pertinent que jamais aujourd'hui, qui s'appelait « Némésis médicale », n'est-ce pas ? Ce que Illich dit dans ce livre à propos de la médecine, mais ailleurs à propos de l'éducation, ailleurs à propos des transports, c'est qu'il faut craindre beaucoup plus aujourd'hui les hommes animés, les hommes et les femmes animés de bonnes intentions que les méchants. Et c'est ce qu'il appelait la contre-productivité. Ben, parce que j'ai étudié Tchernobyl, par exemple. Et j'ai donc étudié ce que j'ai appelé la nucléocratie mondiale, qui en l'occurrence a menti, a sous-estimé l'importance de cette catastrophe, etc., etc. Eh bien, je connais pas mal de ces nucléocrates, en particulier français. Ce sont des gens animés des meilleures intentions. D'ailleurs, l'agence de l'énergie à Vienne a dans sa devise que c'est grâce à l'énergie nucléaire que la paix et la prospérité du monde seront assurées. Mais je ne mets pas en doute les bonnes intentions de ces gens. Mais ces bonnes intentions peuvent produire des catastrophes insupportables. Mais Arendt disait la même chose, elle a été d'ailleurs beaucoup critiquée pour cela, je crois qu'on l'a très mal comprise, enfin vous le savez mieux, aussi bien ou mieux que moi, qu'elle ne voulait pas dire que Eichmann, en disant qu'il était « thoughtless » en anglais, puisqu'elle écrivait en anglais, bon, thoughtless, ça veut dire qui ne fait pas attention aux autres, qui est distrait, qui ne se met pas à la place des autres, qui n'apprécie pas les conséquences de ses actes. Bon, un petit défaut, quoi, disons. Bon, il avait des intentions qui n'étaient pas, selon elle, tout ça, selon elle, qui n'étaient pas grand-chose. Il voulait plaire à son patron. Bon, son patron s'appelait Goebbels, ok, mais voilà, c'est tout. Mais elle ne voulait pas dire par là qu'il n'était pas un monstre. Au contraire, elle voulait pointer l'écart immense entre les intentions, alors en l'occurrence pas des bonnes intentions, mais des intentions médiocres d'un homme médiocre, et le mal qu'il a pu faire. On pourrait presque dire la même chose d'Hiroshima, n'est-ce pas ? Les Américains étaient des meilleures intentions du monde, ils voulaient mettre fin à la guerre du Pacifique. Et plutôt que d'envahir le Japon, c'était prévu à la Toussaint d'ailleurs, de 1945, qui aurait tué un nombre considérable de GIs américains et aussi de la population japonaise, bon, il valait mieux utiliser les bombes atomiques. On peut considérer que c'est une décision moralement inacceptable, et cependant pointer cet écart entre les intentions qui pouvaient être bonnes, minimiser le nombre de morts, et la réalité horrible, puisque bon, on est entré là en août 1945 dans une période dont nous ne sommes évidemment pas sortis. Nous ne sommes plus près que jamais, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que moi qui le dis, les plus grands spécialistes de l'arme nucléaire le disent. Nous n'avons jamais été aussi près pendant la guerre froide de l'éventualité d'une guerre nucléaire qu'aujourd'hui. Alors on l'oublie un peu là maintenant avec le virus. Les catastrophes sont des masques les uns, ou des écrans plutôt, pour les unes pour les autres.
Alors à propos justement de ce risque nucléaire, Jean-Pierre Dupuis, vous avez publié un livre récemment qui nous fait trembler littéralement parce que vous nous apprenez que le 13 janvier 2018, c'était quand même il y a pas très longtemps, à un cheveu près, nous étions tout au bord de la guerre nucléaire. Et d'ailleurs, une population, celle de Hawaï, a été prévenue de cette guerre nucléaire sur leurs applis des portables. Mais oui. Nous, finalement, nous n'en avons pratiquement rien su.
Oui, mais de même que le monde ne sait pas, le monde, c'est-à-dire la planète, ne sait pas que de tels événements qu'on appelle en anglais des near misses, hein, c'est-à-dire on est passé à un cheveu. On est passé à un cheveu d'une catastrophe qui eût pu aller jusqu'au déclenchement d'une troisième guerre mondiale et nucléaire cette fois. Bon, de tels near misses, de tels, il suffisait de presque rien, ben, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps depuis le 9 août 1945, date de Nagasaki. Donc, s'il y a une guerre nucléaire, là aussi, ben, c'était une très belle illustration de ce que j'essayais de dire juste avant, elle ne viendra pas des mauvaises intentions des acteurs principaux.
Quoique, oui bon, cette guerre nucléaire a failli avoir lieu, donc, entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Oui, mais écoutez, c'est l'année d'avant, l'été 2017, que j'ai vécu en Californie d'ailleurs, hein, et j'étais proche de certains des responsables, que on ne s'en souvient peut-être plus en France, que Trump et Kim sont montés à un niveau jamais atteint en escalade verbale. Alors purement verbale, bien sûr. Mais enfin, écoutez, quand on n'arrête pas de s'insulter l'un l'autre, surtout et quand on a affaire à des psychologies comme celle de Trump, je ne connais pas celle de Kim, bon, eh bien, on peut très facilement passer des menaces à la réalité. Mais aucun des deux ne voulait la guerre nucléaire. Aucun des deux.
Et ils voilà. Jouaient à la guerre, comme des gamins, quoi.
Ben oui, c'est comme les Brésiliens, c'est que je suis à moitié brésilien par mes enfants, bon. Le carnaval, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, le carnaval, bon, sous des dehors, car qu'est-ce que c'est que le carnaval? Et ça, c'est l'anthropologie du carnaval, ça date des fêtes romaines d'hiver, bon. Ça consiste à se faire peur, c'est une ville entière, alors je ne parle pas de Rio qui est devenu complètement, le carnaval de Rio est devenu un piège à touristes, mais les grands carnavals du Brésil sont au nord et au nord-est, Salvador de Bahia, Recife, etc. C'est une ville entière de plusieurs millions d'habitants qui mime la décomposition violente de la société. Alors quand j'étais enfant, il y a bien longtemps, ça se traduisait, c'était ce qu'on appelait le Mardi Gras, bon, on insultait les passants, on leur jetait de la farine ou des boules puantes. Bon, derrière tout ça, il y a toute une réalité anthropologique qui est extrêmement grave et que le carnaval illustre. Et très souvent, bien évidemment, quand on joue, comme vous le disiez, à la guerre, eh bien, on n'est pas loin de la guerre tout court. Alors donc, je pense, pour revenir au point précédent, que ces tensions ne traduisent pas l'intention de déclencher une guerre nucléaire, mais sont le terrain absolument favorable à ce qu'il faut appeler des accidents. Alors, si on est philosophe, on pourrait dire que la contingence, l'accident, là, est au service de la nécessité, du destin. Le destin qui serait l'auto-annihilation nucléaire de l'humanité. Voilà.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue avec Jean-Pierre Dupuis. Et pour vous, Jean-Pierre, puisque vos enfants vivent au Brésil et qui ne peuvent vous rejoindre, parce que si vous êtes professeur à Stanford, vous êtes en ce moment à Paris, où vous faites vos cours pour Stanford, pour des étudiants qui sont dans le monde entier. Mais pour vous, qui êtes à moitié brésilien, nous allons écouter Carlos Jobim.
Ser com você havia de ser pra você.
Alors, comme chaque soir, depuis que nous sommes chacun chez nous et que nous ne pouvons pas nous rencontrer vraiment dans un studio de radio, nous demandons à une comédienne de lire un texte que vous avez choisi. Et vous, Jean-Pierre Dupuis, vous avez choisi Philippe Roth, le dernier livre écrit par Philippe Roth. Philippe Roth qui avait décidé de ne plus écrire quelques années avant sa propre disparition. Et ce texte s'intitule Némésis. Pourquoi l'avez-vous choisi ?
Alors, je vais simplement dire quelques mots pour qu'on comprenne le sens de la scène que j'ai choisie, qui est un dialogue. Le héros de ce roman, c'est un jeune américain. Alors, l'été 1944, il a 22, 23 ans, qui s'appelle, son surnom c'est Bucky, B-U-C-K-Y, Cantor. C'est un jeune gymnaste extrêmement doué, petit, voire très petit, très costaud, éminent lanceur de javelot, et qui s'occupe de jeunes enfants qui ont entre 12 et 14, 15 ans, voilà, etc., et qui est leur coach en quelque sorte, hein, en matière de gymnastique. Et tout d'un coup, venant de nulle part, une épidémie de poliomyélite se déclare. Et contrairement à l'épidémie que nous vivons actuellement, du coronavirus, c'est une épidémie qui frappe, et ça c'est très important pour penser notre situation actuelle, qui frappe les jeunes, les très jeunes. Alors que on n'arrête pas de nous le répéter, je voudrais dire quelques mots là-dessus après, si vous le permettez, cette épidémie, il ne faudrait peut-être pas la prendre trop au sérieux, l'actuelle, parce qu'elle frappe que les vieillards, comme on dit. Mais revenons au roman de Philippe Roth. Donc le dialogue que nous allons entendre est entre ce Bucky Cantor, de 23-24 ans, et du père d'un de ses étudiants, si je peux dire, d'un de ses élèves, gymnaste, qui avait 13-14 ans et qui vient d'être atteint par la polio et qui vient d'en mourir. Et donc, Cantor rend visite au père de ce jeune, Alan Michaels, pour lui présenter ses condoléances.
Nous écoutons donc cet extrait du texte de Philippe Roth intitulé « Némésis » grâce à la comédienne Clotilde M.
Les anciens rituels funéraires juifs commandent qu'en apprenant la mort d'un être aimé, on déchire ses vêtements. Monsieur Michaels, lui, avait plaqué deux taches brunes sur son visage blafard. « Nous avons deux fils dans l'armée, » dit-il, parlant doucement pour que personne ne puisse l'entendre dans une autre pièce, et lentement, comme en proie à une fatigue extrême. Depuis qu'ils sont là-bas, en Europe, il ne se passe pas un jour où je ne m'attende pas au pire. Jusqu'ici, ils ont survécu au pire combat, mais voilà que leur petit frère se réveille, il y a quelques jours, avec un torticolis et une forte fièvre, et trois jours plus tard, le voilà parti. Comment allons-nous apprendre ça à ces frères? Comment allons-nous leur annoncer la nouvelle à eux, qui sont en pleine zone de combat? Un gosse de 12 ans, une merveille de garçon, et le voilà parti. La première nuit, il était tellement mal que le lendemain matin, j'ai pensé que le pire était peut-être derrière lui et que la crise était passée. Mais le pire ne faisait que commencer. Quelle journée ce pauvre gosse a enduré. Il était en feu. Vous regardiez le thermomètre et vous ne pouviez pas le croire. 41 degrés. Dès que le docteur est arrivé, il a appelé l'ambulance et à l'hôpital, ils l'ont embarqué loin de nous. Et c'est tout. On n'a plus jamais revu notre fils vivant. Il est mort tout seul. On n'a même pas pu lui dire au revoir. Tout ce qui nous reste de lui, c'est une penderie avec ses vêtements, ses livres de classe et ses affaires de sport. Et puis, là-bas, au fond de la pièce, ses poissons. C'est C'était le meilleur des garçons, dit Monsieur Cantor en se penchant pour se faire entendre sans élever la voix. Il faisait toujours ses devoirs, dit Monsieur Michaels. Il aidait toujours sa mère. Il n'y avait pas une once d'égoïsme en lui. En septembre, il allait commencer à se préparer pour sa bar mitzvah. Poli, soigné. Toutes les semaines, il envoyait par câblogramme des lettres à ses frères, des lettres pleines de nouvelles qu'il nous lisait à table pendant le dîner. Il réconfortait toujours sa mère quand elle se faisait du mouron à propos de nos deux fils aînés. Il la faisait toujours rire. Même quand il était petit, on s'amusait toujours bien avec Alan. C'est chez nous que tous leurs amis venaient pour s'amuser. La maison était toujours pleine de jeunes. Pourquoi Alan a-t-il attrapé la polio ? Pourquoi a-t-il fallu qu'il tombe malade, qu'il meure ? Monsieur Cantor serra fort le verre de thé glacé dans sa main sans boire, sans même se rendre compte qu'il l'avait à la main. Tous ses amis sont terrifiés, dit Monsieur Michaels. Ils sont terrifiés à l'idée qu'il la leur a passée et que maintenant ils vont avoir la polio eux aussi. Leurs parents sont dans tous leurs états. Personne ne sait quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Je me creuse la cervelle. Est-ce qu'il existe une maison qui soit mieux tenue que la nôtre ? Est-ce qu'il y a une femme qui tienne son ménage avec plus de méticulosité que ma femme ? Y a-t-il une mère qui soit plus attentive au bien-être de ses enfants ? Y a-t-il un garçon qui ait pris plus grand soin de sa chambre et de ses affaires et de lui-même qu'Alan ? Tout ce qu'il faisait, il le faisait bien du premier coup, et toujours content, toujours prêt à plaisanter. Alors pourquoi est-il mort ? Y a-t-il une justice là-dedans ? Il n'y en a aucune, dit Monsieur Cantor. Vous faites tout bien et encore tout bien depuis toujours. Vous vous efforcez d'être quelqu'un de réfléchi, de raisonnable, de vous montrer conciliant, puis voilà ce qui arrive. Quel sens peut bien avoir la vie ? On a l'impression qu'elle n'en a pas, répondit Monsieur Cantor. Où est la balance de la justice ? Demanda le pauvre homme. Je n'en sais rien, Monsieur Michaels. Pourquoi est-ce que la tragédie frappe toujours les gens qui le méritent le moins ? Je ne connais pas la réponse, répondit Monsieur Cantor. Pourquoi pas moi plutôt que lui ? Monsieur Cantor n'avait pas la moindre réponse à une question de ce genre. Il ne put que hausser les épaules. Un gosse ? La tragédie frappe un gosse ? C'est trop cruel, dit Monsieur Michaels en frappant de la paume de la main le bras de son fauteuil. Ça n'a pas le moindre sens. Une maladie épouvantable tombe du ciel et du jour au lendemain, quelqu'un se retrouve mort. Un enfant, un simple enfant. Monsieur Cantor aurait voulu trouver la parole capable d'alléger, ne serait-ce qu'un instant, la douleur et l'angoisse de ce père. Mais la seule chose qu'il put faire, c'est hocher la tête.
Merci Jean-Pierre Dupuis de nous avoir fait découvrir ce texte de Philippe Roth. Je voudrais qu'on parle de ce qui est en train de, peut-être, je l'espère, de se terminer, c'est-à-dire cette pandémie qui a atteint le monde entier. Comme vous l'avez fait remarquer dans un des articles passionnants que vous avez publié dans la revue AOC il y a très peu de temps, cette pandémie a confiné la moitié de la population dans le monde. Alors d'abord, commençons par le commencement, c'est-à-dire par la manière de nommer ce virus. Vous nous expliquez qu'il faut pas l'appeler Covid-19. Ça va pas du tout, c'est pas le bon terme. Pourquoi ?
Bon, c'est pas essentiel entre nous. Mais parce que c'est le nom de la maladie.
C'est essentiel parce que comme on le répète 50 fois par jour, non, 90...
Oui, mais alors c'est trop tard, on n'arrivera pas à corriger cette erreur. Bon, Covid-19, ça veut dire, en anglais, tout ça c'est de l'anglais bien évidemment, coronary virus, disease, la maladie du virus coronavirus. Bon, et 19, c'est le nom de l'année, 2019, bien sûr. Hein. Donc le mot important là-dedans, c'est le D, à la fin de Covid, qui est l'initiale de disease, qui veut dire la maladie. Bon, donc d'ailleurs, il faudrait mieux dire mettre au féminin. Il faudrait dire la Covid-19, n'est-ce pas, plutôt que
non,
le
ben merci, merci, non. Pitié.
Bon. Non, mais simplement parce que maladie est féminin.
Gardez-vous bon. Le masculin du virus.
Non, mais Némésis, c'est féminin aussi en français. La Némésis, c'est une déesse féminine, etc., etc. Et pourtant, c'est la vengeance, hein, la déesse de la vengeance. Bon.
Tandis donc, il faut l'appeler comment, alors?
Son vrai nom, c'est le SARS-CoV-2. SARS, ça veut dire...
On va l'appeler comme ça, maintenant.
Non, mais c'est... Oui, si vous voulez, c'est SARS, c'est les initiales en anglais. C'est les initiales, pardon, d'une expression anglaise qui veut dire syndrome respiratoire aigu et sévère. Bon. S pour sévère, A, R pour respiratoire, A pour... etc. Bon. COV, c'est bien sûr le coronavirus. Et deux, parce qu'il y a eu un 1. Il y a eu un 1 avant. Bon, voilà. OK. Mais personne ne va l'appeler de cette manière. Mais,
ben voilà. On peut essayer. Bon, il vaut mieux nommer les choses vraiment.
Le SARS-CoV, oui, comme disait Camus, n'est-ce pas? Bien nommer les choses, c'est... Voilà. Ou les mal nommés plutôt, c'est ajouté au malheur du monde. Bon.
Alors, ce virus que je vous garde dans la catégorie masculine, mon cher Jean-Pierre
Dupuis. Oui, merci.
Ce virus, il n'est pas vivant, dites-vous, mais il aspire à la vie.
Ben oui, mais c'est un mystère, effectivement. Les virus m'ont toujours fasciné, enfin, voilà. C'est des bouts d'ADN ou d'ARN. Bon, ce sont des suites de bases, donc, hein, comme dans le code génétique, qui, pour devenir vivantes, ont besoin de faire partie d'un métabolisme qu'elles ne trouvent, ces séquences de molécules qu'elles ne trouvent que chez un être, que dans les cellules d'un être vivant, vraiment vivant, lui, hein.
Il a besoin d'un être vivant, oui. C'est un parasite.
C'est un parasite. C'est le parasite ultime, effectivement. Le virus en général, et celui-ci en particulier. Bon, voilà. Et donc, il se diffuse en passant d'hôte à hôte, hein, tout simplement. Ce qui fait que...
Oui, mais vous êtes très curieux, Jean-Pierre Dupuis, à cet égard, parce que vous lui prêtez des intentions. Vous parliez d'intentions dans la première partie de l'émission. Oui. Et là, dans un de vos textes, vous dites que ce SARS-CoV-2, comme s'il avait compris que s'il tuait tous les hôtes à l'intérieur desquels il allait se mettre, eh bien, il se suiciderait. Donc, il ne tue pas tout le monde.
Exactement. Bon, mais évidemment...
Ça veut dire qu'il a des intentions.
Il faudrait dire, comme Kant, als ob, en parlant allemand, tout se passe comme si il avait des intentions. Mais les biologistes, c'est une manière rapide de parler, si vous voulez. Les biologistes ont une explication purement mécaniste derrière ces apparences, intentions, ces comportements apparents, etc., comme s'ils étaient doués d'intentionnalité. Mais c'est la sélection naturelle, tout simplement. Alors, si on commençait à parler de la sélection naturelle, et là, nous aurions besoin de plusieurs heures, et je ne suis pas sûr que ce soit le but de votre émission. Hein. Mais voilà, on peut se permettre parfois de dire, de faire comme si. Mais on peut d'autant plus le faire qu'il s'agit pas d'êtres humains, n'est-ce pas, hein. Dans le cas, si on parle d'Eichmann ou si on parle des Américains qui lancent leurs bombes sur Hiroshima et Nagasaki, là, c'est autre chose, car on a affaire à des êtres humains. Bon. Pour un virus, bon, on peut admettre le comme si. Alors, en tout cas, la chose importante, c'est effectivement que tout se passe comme si ce virus se rendait compte que tuer son hôte est absolument contre-productif, comme dirait Illich. Bon. Et donc, il remplace ce suicide, en quelque sorte, en étant moins létal, justement, en épargnant son hôte, mais en étant à la place extrêmement contagieux. Et c'est ce qui se passe, avec ce SARS-CoV-2, c'est qu'il est peu létal, on n'arrête pas de le répéter, pour l'ensemble de la population, car il est quand même létal pour les vieux, pour les vieillards. Mais en revanche, il est extrêmement contagieux. Son R0, Tout le monde a entendu parler du R0. Alors, je rappelle quand même ce que c'est. C'est le nombre de contaminés que fait un contaminé. Tout contaminé devient un contaminant. Hein, vous avez le virus et vous êtes potentiellement prêt à le passer aux autres. Le nombre moyen de contaminés que fait quelqu'un de nouvellement contaminé est, pour ce virus, de l'ordre de 3,5. Lorsque, bien sûr, la diffusion de ce virus n'est pas empêchée par les fameuses mesures, etc., etc., etc. Mais 3,5, c'est énorme, c'est énorme. Alors, je prends l'exemple là, de répéter 10 fois avec chaque période, disons, de 15 jours, vous aboutissez, pour un contaminé, à ses petits-enfants, si je peux dire, contaminés, c'est de l'ordre de 300 000, enfin 275 000, c'est 3,5 à la puissance 10. Bon, voilà.
Oui, donc dans la controverse qui vous a opposé à certains philosophes, dont André Comte-Sponville, qui disait que ce virus, il n'était pas si méchant, que ce virus n'aurait pas dû provoquer cette immobilisation à la fois économique et sociale du monde entier, vous vous dites, il reste aujourd'hui extrêmement dangereux et immaîtrisé.
Mais les gens qui disent cela, qui raisonnent comme... je veux pas prendre André Comte-Sponville comme bouc émissaire, là, car beaucoup de gens raisonnent comme lui, font comme si le fait que l'épidémie ait été maîtrisée, pour l'instant, hein, je veux revenir sur ce que vous disiez, comme si elle était maîtrisée pour toujours. J'en doute très, je vais vous donner des exemples, des illustrations de cela. Elle n'est pas maîtrisée pour toujours, loin de là. Bon. Comme si le fait que l'épidémie était maîtrisée, ou apparemment maîtrisée, rendait superfétatoire, en quelque sorte, toutes les mesures contraignantes, extrêmement contraignantes, qui ont été prises. C'est ce que j'appelle le sophisme du Y2K, Y2K en anglais. Vous vous souvenez peut-être, nos éditeurs les plus jeunes ne s'en souviennent pas, enfin les moins de 20 ans disons, le faux passage ailleurs au 21e siècle. C'est-à-dire lorsque nous étions en 1999, le vrai passage a été en 2000, hein, je vous rappelle de 2000 à 2001, mais... Le faux passage était 1999 à 2001. Tous les informaticiens de la planète se sont affolés quand ils se sont aperçus que le codage des années dans les ordinateurs du monde entier ne portait que sur les deux derniers chiffres. Ce qui fait qu'ils prévoyaient que l'année après 1999, ça allait être non pas 2000, mais 1900, qui aurait mis à bas l'ensemble des ordinateurs de la planète. Alors vous imaginez, c'était vraiment une catastrophe prévue énorme. Des centaines de millions de dollars ont été dépensés de par le monde pour corriger cela. Eh bien, on a dit, mais voyez, il n'y avait pas à s'affoler. Tout va bien. Pourquoi avoir dépensé, etc. Donc voilà, c'est un sophisme extraordinaire quand même, qui consiste à trouver superfétatoire les raisons mêmes qui ont fait que les choses vont bien. Ce sophisme est commis par des tas de gens. Je le dénonce, effectivement. Bon.
En fait-on assez? Est-ce qu'on a eu raison de déconfiner aujourd'hui?
Mais, si vous voulez, il y avait plusieurs manières. Bon, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Comme je suis philosophe, mais j'ai été scientifique et je le reste de cœur. Comme scientifique, je suis fier de mon pays. Gouvernement et
la
peuple
France.
Réunis.
La France.
Oui, la France. Oui, la Alors, France.
Vous travaillez aux États-Unis à Stanford.
Non, mais attendez.
Votre nationalité, c'est français. Bon.
Donc, je suis fier de la France. Alors, dans l'incertitude où nous étions sur ce SARS-CoV-2, le confinement, les mesures de base, le port du masque, les tests, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Bon. D'ailleurs, je vous signale que c'est l'avis d'un de mes principaux modèles scientifiques, qui est beaucoup moins connu que ce qui passe à la radio ou à la télévision, qui s'appelle Philippe Pourilski, professeur au Collège de France, qui était le directeur général de l'Institut Pasteur, qui dit en gros ce que je viens de dire. Alors certes, il y a eu des cafouillages, certes, Alors, on va les répéter masques, combien de fois qu'il n'y avait pas de masque, etc., etc. Mais finalement, ça a été rattrapé. Et on aurait pu choisir une autre méthode que le confinement. On aurait pu choisir le traçage, bon, etc., isolement, quarantaine et tout ce que vous voulez. Mais il fallait faire des choses avec des conséquences graves, et graves en particulier pour ce que beaucoup de gens sacralisent, à savoir l'économie. Bon, ces choses ont été faites, et c'est ça qui explique que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'épidémie semble maîtrisée, mais semble maîtrisée dans notre pays et une bonne partie de l'Europe, mais dans le reste du monde, elle n'est absolument pas maîtrisée. Écoutez, hier, je lisais deux articles à peu près en même temps. Un d'un professeur d'optimisme qu'on voit beaucoup sur les ondes, il s'appelle le docteur Jean-François Toussaint. Il est invité constamment parce que c'est l'optimiste de service, si je peux dire. Je crois que c'est un médecin du sport, bon, qui dit c'est un virus saisonnier, tout va bien, etc. Bon, je vais vous donner deux exemples rapidement. Hein. J'étais au Brésil, dans ma famille, donc, fin février, début mars. Là-bas, je vous signale, les Brésiliens, vous savez, ils marchent sur la tête, hein, dans l'hémisphère sud. Bon, donc, pour nous, c'est le printemps, là-bas, c'est l'automne et inversement. Bon, il faisait encore 30 degrés à São Paulo, Celsius. Bon, 30 degrés. Et déjà, la panique commençait. À 8h15 du matin, 8h étant l'ouverture des pharmacies, à 8h15, on ne trouvait déjà plus de ce gel hydroalcoolique. Tout le monde s'était précipité dans les pharmacies, etc. Bon. Alors, allait arriver Bolsonaro, qui allait dire, en montrant l'exemple, que tout ça, c'est un canular, que les Brésiliens adoraient s'embrasser. Le terme « abraço » est un terme essentiel au Brésil. Et il montrait l'exemple en embrassant les filles qui étaient en admiration de lui, tout autour de lui, etc., etc. Bon, voilà. Ben, le virus, mais c'est horrible ce qui se passe actuellement au Brésil, hein, y compris dans les hôpitaux de Saint-Paul. On voit des gens dans les couloirs des hôpitaux, mourant, agonisant. Alors, je ne parle même pas des hôpitaux de Manaus, de Recife, de Belém, l'embouchure de l'Amazon, etc. C'est l'horreur absolue. Deuxième exemple, je peux le dire, l'université Stanford vient de décider, ce qui est une université privée, hein, une énorme machine à faire du fric, bon, avec des tuitions de l'ordre de 40-50 000 $ juste pour avoir le droit de mettre le pied sur le campus. Bon, vient de décider que tous les cours de l'année universitaire 2020-2021, n'est-ce pas, automne, hiver, printemps, été, serait en ligne. Il n'y aurait personne sur le campus. Il fallait prendre une décision tout de suite, parce qu'on ne va pas inviter des gens qui viennent des étudiants undergraduates venant du monde entier à venir en Californie pour, en milieu d'année, les renvoyer chez eux. Bon. Et l'université va perdre énormément d'argent puisqu'elle va devoir, bien évidemment, diminuer la valeur de la tuition. Peut-être de moitié. Bon, elle va perdre énormément d'argent.
Alors, Jean-Pierre Dupuis, question, excusez-moi, mais quelles sont les conséquences morales, intellectuelles et d'éducation pour cette génération des jeunes étudiants qu'on oublie un peu trop et qui ne vont plus pouvoir aller en cours? Et quelles sont en général les conséquences morales sur la définition de l'homme après ce SARS-CoV-2?
Oui. Écoutez, il se trouve cours que je donne cette année à Stanford, et cours dont la définition a été faite il y a un an, hein, donc personne n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. C'est un cours sur le problème du mal en philosophie, littérature et cinéma, que je donne entièrement en Zoom. Bon. Eh bien, nous n'arrêtons pas de discuter de cette chose, si vous voulez. Ça tombe extrêmement bien. D'abord, on peut faire vraiment des choses très bien en Zoom. Il y a des techniques de base à apprendre très rapidement, d'ailleurs, et on peut vraiment dialoguer, etc., etc. Bon. Et entre deux séances de Zoom, on communique par courrier électronique. Bon, on peut faire vraiment du très bon travail. Mais il manque évidemment quelque chose qui est essentiel, qui est le contact direct. Bon. Je ne connais de mes étudiants que leur visage. Je n'ai pas la moindre idée de leur taille, par exemple. Je ne peux pas les embrasser ou leur serrer la main. Non, je pense que c'est très grave, effectivement. Mais si vous voulez, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, sauf si nous considérons. Alors, c'est de ça, je ne sais pas si nous avons le temps d'en parler, que puisque ça touche essentiellement les vieux, ce virus, hein, après tout, c'est pas si grave. Ils ont mené une bonne vie, enfin, certains d'entre eux ont mené une bonne vie, et il est peut-être temps de laisser la place aux jeunes. Quant aux jeunes, ils sont peu touchés. Alors, si vous voulez, les jeunes, enfin, les jeunes, c'est-à-dire les moins de 65 ans, hein, puisque la publicité du ministère de la Santé, qu'à mon avis, il ferait mieux de remiser dans leur tiroir, consiste à répéter constamment 90% des gens, de ceux qui sont touchés, ont moins de, ont moins de 65 ans. Bon. Donc on en déduit que c'est les plus de 65 ans qui sont touchés, qui sont, etc. Et donc pourquoi est-ce que les jeunes, d'ailleurs, je ne comprends pas, continuent à faire des efforts de confinement et autres? On en voit de moins en moins, peut-être, d'ailleurs. Hein, et c'est ça qui me paraît très grave, puisqu'ils ne seront pas touchés. Alors, ils pourraient faire ça pour leurs parents et leurs grands-parents. Oui, mais ils restent chez eux. Bon, ça me paraît extrêmement grave, ça. Ce conflit des générations qui se met en place là, actuellement, et qui est poussé par pas mal d'intellectuels, hein, par pas mal d'intellectuels, mais aussi par des ingénieurs ou des scientifiques, me paraît extrêmement grave. La solidarité entre générations disparaît. Moi, il me semble que la vie d'un vieillard, comme la mienne, a autant de valeur. Alors, je suis évidemment juge et partie, mais ça ne me gêne pas. A autant de valeur que la valeur d'un jeune. Enfin, alors, c'est peut-être mon éducation chrétienne qui me fait penser cela. Il ne s'agit pas de peser les vies humaines les unes par rapport aux autres. Ça me paraît ça le mal ultime de ce qui se passe actuellement.
Eh bien, merci infiniment, Jean-Pierre Dupuis. On se retrouvera à la rentrée. Vous serez peut-être un tout petit peu plus optimiste. On verra.
Ben oui, on verra. On verra. Voilà. Je souhaite que les optimistes aient raison.
En tout cas, merci pour vos textes, merci pour vos réflexions et merci pour vos connaissances à la fois scientifiques et philosophiques et pour l'éclairage que vous donner à ce que nous sommes en train de vivre. Merci aussi beaucoup à toute l'équipe de L'Heure Bleue. Merci à Ronan Mahé qui était à la technique ce soir. Merci à Maëlan Loaec, Anne-Sophie Dazard et Elodie Royer. Merci à Jean-Baptiste Audibert et merci à Lilian Allot. Mais comme chaque soir, on va se quitter en musique et ça sera Birds on a Wire.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence, ainsi certains. Flamme à nos yeux, allez. soleil, la peine, le jour et le brave homme, la bonté. Comme le chien.